Voilà, on va continuer avec un podcast qui s'appelle Anarchie et Éducation. Et Radio RIA, on pense que l'éducation, c'est évidemment un des leviers essentiels pour pouvoir changer notre société. Et on avait organisé ce podcast pour parler d'anarchie et d'éducation. Je vous laisse écouter ça. On se retrouve dans 1 heure et demie. À tout bientôt.
Libre Radio, la radio qui ronronne à ton oreille.
Eh ben, bienvenue à tous. Il y a la Dream Team qui nous a préparé une super soupe pour après. Et on se disait, si ça va pour tout le monde, on se lève jusqu'à 8h30 et puis gentiment on va manger pour ceux qui ont faim. Alors moi, ces derniers temps, je suis un petit peu maudite d'avoir. Oui, pardon.
Non, c'était juste pour dire pour l'enregistrement.
Ah oui.
Je ne sais pas si tu avais commencé en fait.
Ouais. Est-ce que ça va pour tout le monde si la discussion est enregistrée pour Libre Radio? Voilà. Pas hésiter.
Si certains souhaitent ne pas être enregistrés, faut pas hésiter à dire.
Et puis est-ce qu'on présente le collectif ou ça va, tu m'en connais?
Le silure,
alors nous, on ne fait pas partie du silure. On utilise les locaux pour faire nos activités. Mais nous, on est le CAGE, le collectif anarchiste Genevois, qui organisons 2 fois par mois des rencontres ici, et puis de temps en temps aussi des projections, et peut-être à venir, qui sait, des trucs un peu plus festifs avec des concerts et des trucs comme ça. Et tout ça en vue aussi de participer financièrement au soutien d'un grand événement, d'une grande rencontre internationaliste anarchiste qui va se tenir à Saint-Imier à l'été 2023.
Dernière semaine de juillet.
Dernière semaine de juillet 2023.
Là, c'est a priori la dernière rencontre de cette année.
Ouais.
Puis on recommence a priori en janvier.
Et il y a des livres.
Ah oui. Il y a des livres de la librairie Fahrenheit qui sont là en vente. Donc il y a le prix qui est écrit dedans, normalement. C'est plutôt à Marc Aurèle qu'il faut s'adresser si ça vous intéresse de les acheter. Et voilà, en général, il y a une partie qui va à la librairie, une partie qui revient au collectif justement pour soutenir l'événement. Le sentiment.
Voilà. Donc l'enfance et l'anarchie. Ouais, moi ces derniers temps, je me suis un peu mordu les doigts d'avoir accepté de m'intéresser à ce sujet. Parce que c'est très très facile de tomber dans le biais. Où voilà, un enfant c'est comme ça se développe comme ça et ça a besoin de ça, dans une optique très catégorielle, un petit peu du développement de l'enfant et en occultant l'individu qui est chaque enfant et l'individu qui est aussi chaque adulte, anarchiste ou pas d'ailleurs. Et donc, du coup, ouais, ça a été difficile pour moi de pouvoir mettre en avant le fait, enfin, voilà, de redéconstruire encore et encore le fait qu'il n'y a pas de bon positionnement, il n'y a pas de positionnement juste, même si on se définit comme étant anarchiste, à mon sens en tout cas. Et que pour moi, tout ça se construit un peu autour de la notion de mouvement. Dans le sens où l'enfant se développe au travers de son mouvement, à ce que je conçois. Et dans les rapports éducatifs, il est aussi toujours question de mouvement entre soi et l'autre. Et je vous demanderais, s'il vous plaît, de ne pas hésiter à nous interrompre ou faire des remarques. Parce qu'à l'instar des fonctionnements éducatifs ou pédagogiques actuels, où voilà, la transmission, on voit qu'elle est très très verticale, je trouverais très intéressant que ce soit un débat tout au long de la présentation, en fait. On enregistre, est-ce que ça va pour toi? Ouais, que la présentation soit un débat tout au long, dans le sens où ça permet davantage d'interactivité, davantage de richesse que si c'est juste une personne qui parle. Et aussi, ce qui est intéressant aussi de poser là au début, c'est que il y a quand même deux endroits où je pense que ça serait intéressant de se restreindre, en tout cas de poser les limites de l'intervention de ce soir sur le thème de l'enfance et de l'anarchie. Ça serait de ne pas digresser dans tout ce qui peut être carcéral ou psychiatrique, vous comprendrez pourquoi plus tard au fil de la présentation, et de ne pas digresser non plus sur ce qui peut être des pédagogies ou pédagogies positives, ou voilà, mais de vraiment rester sur l'aspect éducatif et l'enfance. Voilà. Mais je pense que si on arrive tous un peu à rester sur ce plan-là, surtout qu'on est peu nombreux, on peut vraiment se permettre beaucoup de liberté et de spontanéité ici. Alors, moi, j'avais le souhait de commencer par vous présenter un anarchiste qui est assez méconnu, mais qui a quand même fondé une discipline qui est aussi un petit peu méconnue, mais ouais, c'est le père fondateur de la psychomotricité. Je dis ça comme si c'était au mur des réformateurs, mais du coup, voilà, c'est une personne que j'aurais aimé prendre une dizaine de minutes pour en parler avec vous, et puis poser un petit peu les bases de ce qu'est cette profession et de voir en quoi, ben, du coup, les valeurs qui habitaient ce monsieur, qui lui se présentait comme étant anarchiste, transparaissent quand même au fil des pratiques jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve ça assez chouette, assez porteur, encourageant en tout cas. Et ensuite, je vais laisser la parole à notre ami
Sébastien.
Et voilà, pour est-ce que tu veux dire quelques mots maintenant?
Ce que je pourrais dire aussi, c'est que je ferai une différence entre l'éducation scolaire et l'éducation sociétale, qui sont deux choses qui ne sont pas tout à fait pareilles. L'une qui est institutionnelle et une autre qui va être plutôt dans le savoir-vivre. Et que je ne vais pas vous dire comment on doit apprendre le français, ou j'aimerais pas trop, moi, je ne connais pas assez, aller dans ce sujet-là, en disant oui, le français, on doit l'apprendre comme ça. Ça, ce n'est pas mon domaine d'expertise. C'est éducateur social, c'est pas prof. Merci.
On commence avec l'anarchiste basque. Alors, écoutez bien son nom parce que je vais le dire qu'une seule fois. C'est un monsieur qui s'appelait Julián de Arruliaguera. Voilà. Il a vécu de 1911 à 1993. Et donc, c'était un basque qui a bien sûr fait la guerre d'Espagne à l'époque. Ensuite, il s'est retrouvé en France, où son diplôme de médecin qu'il avait eu en Espagne n'a pas été reconnu, en tout cas pas tout de suite. A galéré quand même pendant de nombreuses années. Après, pendant l'occupation, il était résistant, et puis bricolait un petit peu dans les catacombes, sous l'hôpital, apparemment ils avaient des trafics de je sais pas quoi. Et il a fini sa vie, sa carrière en tout cas, ici à Genève, il était directeur de Belidé. Donc voilà, anarchiste et directeur d'une institution psychiatrique, ça questionne quand même beaucoup. C'est quelqu'un qui a... C'est libre de juger à chacun, mais c'est quelqu'un qui a dû faire beaucoup de compromis par rapport aux valeurs qui l'habitaient, et qui d'un autre côté a dû beaucoup défendre les valeurs qui l'habitaient. Et c'est à lui qu'on doit le fait notamment qu'il y a des arrêts TPG au sein de Belidé. Et que du coup, voilà, c'est une institution qui est un peu reconnue mondialement pour ça, et où lui, il avait à cœur que la ville puisse aller dans l'institut psychiatrique, bien sûr. Et c'est assez intéressant, il y a une vidéo de lui où il présente un petit peu qui il est, qu'est-ce qu'il fait en tant que directeur et tout ça. Et je trouve fascinant d'entendre un directeur d'institution psychiatrique parler d'antipsychiatrie. C'est, voilà, en termes de paradoxe, ça va assez loin. Et du coup, voilà, c'est une personnalité très complexe, très riche, qui est parfaitement méconnue, mais par contre qui a laissé quand même un héritage, je trouve, substantiel. Ouais. Alors c'est concret, ces arrêts de bus à Belidé, et quand même, ouais, juste une profession, quoi. Un courant de pensée assez développé et assez solide pour en faire un corps de métier. Je trouve ça pas mal, parce que des nouvelles professions, depuis les années 50, il y en a beaucoup, mais c'est surtout dans le domaine des nouvelles technologies, enfin, en ce qui concerne les métiers de l'humain, finalement. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de nouvelles professions. Peut-être l'ergothérapie, je m'en renseigne. Mais...
La logopédie aussi.
Hmm?
La logopédie aussi.
Ouais, dans le même courant. Voilà. Et du coup, oui, lui, son apport spécifique, il est tout en lien avec le tonus de l'individu. Voilà, on est tous construits différemment sur ce plan-là. On va tous coordonner notre motricité d'une manière qui nous est parfaitement unique. Et oui, il voit aussi la tonicité musculaire comme l'accès, disons, la face émergée des émotions de la personne. Là, vous pouvez voir, je rougis, je tremble, enfin voilà, c'est assez évident. Et il a réussi à partir de ce constat, ben, qu'on fait tous régulièrement, quand on se retrouve à parler devant des gens, en ce qui me concerne, mais à faire de ça un outil de travail, en fait, avec les gens, et spécifiquement avec les enfants. Où il n'y a pas besoin d'avoir forcément l'accès à la parole, il n'y a pas forcément d'avoir des capacités d'élaboration abouties, disons, pour pouvoir bénéficier de cet apport-là. Et il a aussi mis en avant, mais comme d'autres avant lui, ça lui est pas du tout spécifique, l'importance de l'environnement, bien sûr, dans lequel évolue l'individu. Ça, c'est juste du bon sens. Et où du coup, voilà, il voit vraiment ce tonus et cette coordination, puis avec l'intention du mouvement, ce qui permet à chacun de devenir soi, finalement, avec une démarche qui lui est propre, une écriture qui lui est propre. Et de là vient aussi le fait qu'il ne peut pas y avoir une méthode pour apprendre à lire ou une façon d'être avec une certaine population, une certaine même partie de population ou certains regroupements, parce que chaque individu est unique, mais dans sa fibre, quoi. Et que toute forme de... Ouais, ce thème est très compliqué à aborder pour moi. C'est comment ne pas tomber dans du dogmatisme, là où, à chaque mot que je dis, ça... En tout cas, moi, c'est ma crainte, là, tout de suite, c'est de tomber dans quelque chose qui serait un petit peu plus dogmatique, quoi. Et ouais, pour finir avec ce monsieur... ça a été aussi un des premiers à insister pour le fait qu'on ne mette pas de jupe aux petites filles, que les petites filles avaient besoin de pouvoir faire du quatre pattes sans s'en mêler dans leurs jupons, et ça me mettait très très en colère, ça. Donc voilà, tout ce développement qui permet petit à petit qu'on a un élan vers la société, qu'on construit notre libre arbitre, qu'on devient un peu plus qui l'on est à chaque fois. Moi j'y vois une application, en tout cas moi au quotidien dans mon travail, de certains principes et valeurs anarchistes, et pour mon plus grand plaisir. Et voilà, je trouvais que ça valait le coup de parler de ce monsieur qui est pas connu, mais qui laisse quand même un héritage que je trouve intéressant. Non, sérieusement, personne ne veut rien dire. Allez-y, quelqu'un, un courageux, courageuse.
C'est tellement nouveau que c'est dur de trouver un truc intelligent à dire, en fait. Pour moi.
Est-ce que tu peux peut-être définir un peu plus concrètement c'est quoi la psychométricité? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est vraiment comme métier?
Ce que ça va impliquer, c'est un élan corporel du psychométricien ou de la psychométricienne. Où tout ce lien justement entre le tonus, les émotions et les mouvements, on les exprime et on les expérimente aussi en miroir ou en tout cas dans la relation, dans l'interaction, toujours. Et ensuite, en fonction des cadres et des contextes de travail, ça peut aller en crèche, des interventions plutôt préventives, à la gériatrie, plutôt des interventions en lien avec le confort et des approches plus sensorielles, des choses qui peuvent faire du bien, calmer certaines angoisses. Donc c'est très très vaste et ça se voulait très vaste. Pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui a fondé quelque chose qui n'est absolument pas limitant, avec le risque, par contre, l'écueil quand même dans lequel c'est une profession, l'écueil dans lequel cette profession peut tomber, c'est que du coup, en ratissant comme ça très large, on peut aussi un petit peu se perdre parfois et plus très bien savoir de quoi on parle. Donc,
ouais. Par expérience aussi, j'ai beaucoup travaillé avec les populations requérant de l'asile. Et on avait une psychomotricienne qui venait de temps en temps dans l'unité pour justement accompagner les gens qui ont vécu notamment des traumatismes psychiques, à pouvoir redécouvrir aussi, palper en gros leurs problématiques, mais à travers la recréation du lien au corps. Et ça, je trouve vraiment très intéressant. C'est pas du tout dans l'éducation, dans le développement de l'enfant ou de la motricité, etc., ou de la personnalité, mais c'était pour retrouver des gens parfois qui... Voilà, elle leur faisait taper dans les mains, sentir une main contre l'autre, juste pour qu'ils puissent retrouver les perceptions qu'ils avaient avant d'être traumatisés, avant de subir des choses difficiles corporellement aussi. Et voilà, évidemment, c'est peut-être très large. Moi, c'est comme ça que je le collège. J'ai l'impression que c'est super utile pour ramener au corps, ramener à l'expression émotionnelle à travers le corps, prendre conscience pour pouvoir... Voilà, utiliser toutes les palettes de l'être humain pour traverser les difficultés.
Ce qui fait que la psychomotricité, c'est quand même bien représentée dans la région, alors s'il a vécu ici, ou...
Oui.
Ça existe aussi beaucoup un peu dans d'autres pays et tout.
Surtout dans les pays européens.
Okay.
Les pays anglo-saxons... vont utiliser d'autres termes et puis ce qui tomberait un petit peu dans le cahier des charges d'un psychomotricien va tomber dans le cahier des charges plus des pédopsies parfois voilà, c'est plutôt une profession européenne mais pas que comment dire, européenne et tout d'Amérique latine aussi davantage. Il y a un bastion de psychomotricien argentin, une approche avec le corps et plus autour des rythmes et de la musique. Et c'est fascinant aussi. Et c'est un autre, un autre élément. Si on revient un petit peu sur l'enfance et le développement de chacun d'entre nous au travers des interactions qu'on a avec notre environnement. Que je te passe le bâton de parole.
Merci.
Il n'y a pas de bâton de parole.
Soyons spontanés.
L'agora, non ? Où on a
c'est exactement l'antithèse de ce que je veux dire. Voilà, voilà le stress, ce que ça me fait faire.
Non, il n'y a pas de souci, Stan. Donc, moi, je fais le lien de ce qui a été dit par rapport à ce qu'on vit dans l'enfance, ce qui peut ressortir plus tard. Et là, j'ai un parallèle. Trouver avec ton prénom
Armand,
c'est les enfants de la guerre. Les enfants de la guerre ont une résilience énorme, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer sous les bombes, littéralement jouer sous les bombes. Et après, on va travailler avec ce genre de population là. Et ça a une particularité, c'est qu'ils ont tout gardé. Et nous, on va devoir déceler ça et voir comment. Faire descendre le traumatisme qui ressortira adulte. Donc ce que vit un enfant ressort très souvent et de manière très violente quand on est adulte. C'est pour ça que moi je suis retourné en enfance, parce que j'ai expliqué mon histoire, j'étais formateur d'adultes en français langue étrangère et ensuite auprès de femmes migrantes isolées, c'est-à-dire qu'ils sont seules à la maison, ils parlent le français et l'informatique. On les sortait de la maison et on pouvait leur faire découvrir le tissu genevois, associatif genevois et autres. Et les problèmes que je voyais dans ces groupes-là, les automatismes, mais ça, c'est des trucs à l'enfance. C'est l'école qui a créé ce problème-là. Donc, on redescend à la racine. Et je me suis retrouvé au parascolaire. Donc là, je me suis dit, OK, on va essayer de corriger les erreurs sociétales de l'école, de l'institution. Et ensuite, j'ai travaillé aussi en maison de quartier. Parce que de fil en aiguille, on sort et on se trouve. Ça, vous voyez aussi situer un peu qui je suis et pourquoi je travaille avec les enfants. Et donc, je rejoins la motricité aussi, qui je sais est beaucoup utilisée pour les enfants qui ont vécu la guerre. Il me semble que c'est beaucoup utilisé, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est très utile et ça permet de faire ressortir le traumatisme, c'est ce que tu disais, il me semble. Mm-hmm.
Avec les adultes en l'occurrence.
Pour là c'était des adultes, pas avec les enfants.
Les enfants c'était dans un autre service. En fait c'est un service de pédiatrie. Donc, je sais pas comment ils font.
Okay.
Je pense qu'ils ont beaucoup accès à d'autres, à même peut-être ce type de thérapie avec la pédopsychiatrie, je pense justement. Mais je sais pas.
Moi je peux, quand on m'a appelé pour dire ah ouais ce serait bien que tu fasses ce lien anarchie machin, il y a des trucs, et j'ai pensé à 10 millions de choses. Puis après, je me suis dit, non, on va se pencher sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'initiative. Quand on a trait à l'enfance, on voit une énorme palette. On voit beaucoup de choses. Et finalement, on peut tout ramener en enlevant toutes les théories qu'on a à une seule chose, c'est l'initiative concrète d'un groupe ou d'un enfant. Parce que toute la théorie qu'on va apprendre ne va pas forcément fonctionner avec un enfant. Et une autre théorie qu'on va apprendre va fonctionner avec cet enfant. Et des fois, il n'y a pas de théorie du tout. C'est au feeling. Et très souvent, c'est au feeling. C'est ce que l'enfant nous renvoie. Et ce que nous envoyons à l'enfant. Et c'est là qu'on va créer quelque chose par rapport à notre éthique. Et par rapport aussi aux enjeux sociétaux. Parce qu'il ne faut pas oublier, les institutions sont toujours là. Et quand on veut éduquer, là je mets des guillemets. Parce que finalement, c'est aussi construire un enfant plus qu'éduquer. Il faut toujours prendre en compte qu'il y a la société, le moule sociétal, et là on va rejoindre l'anarchie. Là on va rejoindre l'anarchie qui est plutôt de l'ordre de l'initiative et de l'individu et du sentiment et de l'idéalisation. Je peux aller dans les exemples parce que c'est plus simple. Je vais prendre un exemple de fille-garçon qui revient assez souvent. Les garçons font du bruit, les filles sont dans un coin et ne font pas de bruit. L'initiative qu'on va avoir dans l'éducation, c'est nous, notre démarche, ok. On a théorisé le droit à chacun d'être dans un lieu public, l'importance que chacun a dans cet espace public, comment de cette théorie-là, je vais pouvoir concrètement le mettre en place pour les enfants et que les enfants puissent être acteurs de cette théorie-là. Je ne sais pas si tout le monde me suit ou c'est un peu compliqué. Des fois, je m'exprime des fois très mal dans ma tête, ça va aussi dans tous les sens. Donc concrètement, moi j'ai les théories, par exemple, du féminisme, et je le ramène à un aspect concret qui est « Mais les filles, pourquoi vous ne criez pas ? Mais les filles, pourquoi vous ne jouez pas au foot ?» Non, mais les garçons, là, vous êtes deux, vous jouez au foot, les filles, elles sont six, ben non, vous allez prendre le terrain, les filles, puis les garçons, vous allez vous mettre là, puis vous allez vous faire deux passes là. C'est ces petites choses-là qui rejoignent finalement les idées qui sont défendues, que ce soit anarchistes ou militantes, et que nous, on va devoir remettre concrètement. Je ne sais pas si... Là, j'ai donné un exemple, mais ça vaut aussi pour tout ce qui va être l'espace public et ce qui va être aussi sur le rapprochement à l'autre, comment on se comporte, comment on écoute un enfant. La première charte des droits de l'enfance, elle date de mémoire, parce que malheureusement, je n'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas révisé, de 1890, il me semble, la charte des droits de l'enfant. Et elle n'est pas officielle. Je vais donner un exemple qui est un prêtre qui dans ma tête est en Russie, mais il faudrait que je regarde, qui a créé un orphelinat. Les règles de cet orphelinat ont été décidées par les enfants, ils étaient appliquées par les enfants. Ce prêtre, qui était en charge de cet orphelinat, s'est fait condamner par le tribunal de l'orphelinat parce qu'il a descendu la barrière de l'escalier sur les fesses et que c'était interdit. Et il a été condamné. Donc ça montre que les enfants ont une capacité d'autogestion, ont aussi des capacités de réflexion sur comment définir leurs règles. Et surtout, c'est que c'est très récent. Le droit de l'enfance a vraiment été appliqué à l'échelle institutionnelle dans les années 1970. Donc avant, on n'écoutait pas les enfants. Donc ils subissaient nos décisions et nos regards. C'est que très récemment que dans les institutions, que ce soit ben là, à l'école, même la Suisse s'est fait épingler en disant qu'ils ne respectent pas les droits de l'enfant parce que les enfants n'ont pas le droit de décision. Quand on a une... Quand on prend une décision qui concerne directement l'enfant, il a le droit de dire si ça lui convient ou pas. Donc, ça, ce sont les premières choses qui doivent être mises en place dans un cadre avec les enfants, c'est de respecter l'enfant comme étant aussi initiateur de son propre cadre. Parce qu'il participe à la société, et plus tard, on sait maintenant, c'est que ça en fera une personne qui participera aussi plus facilement à la vie de l'entourage, donc de la société. Et là, ça rejoint, moi je suis très communaliste, hein, je suis un peu biaisé, mais ça rejoint les théories anarchistes qui est que chacun peut être acteur de son quartier et peut, dans son quartier, le représenter, le faire vivre, plus que, on parle d'une nation ou d'une société. Là, l'anarchie rejoint beaucoup dans l'aspect éducationnel, dans la méthode, qui est, vous voulez faire une cabane, moi je ne vais pas la faire pour vous, vous allez la faire vous. Je donne aussi un autre exemple qui est les outils. Qui a dit qu'un enfant de 5 ans n'avait pas le droit d'utiliser des outils? Ben moi, les enfants, ils ont des marteaux, des clous, des scies. Je leur montre, ou alors ils expérimentent. Et après, je vais leur dire, attention, tu vas te faire mal. Il va se faire mal, c'est normal. On est tous fait mal, mais il fait. Et il fait une cabane monstrueuse, qui a déjà 2 étages. 2 étages, la cabane. Et ça rend fou, en se disant, ben, un enfant arrive à faire ça, et nous, on l'a brimé, parce qu'en fait, automatiquement, il se met en place lui-même des automatismes, et nous, on va finalement que guider en disant, attention, mais pourquoi lui, il n'aurait pas le droit d'utiliser la scie, et pourquoi que toi? Et là, on voit, on revient sur les empreintes de notre société, ce qui est normal, hein, c'est un garçon décide, une fille suit, et là, on dit, attends, mais pourquoi? Et là, on manage, entre guillemets, c'est un mot très moderne, mais on va juste coordonner un petit peu pour créer des réflexions, et c'est l'enfant qui est finalement l'outil en général, sur notre éthique et où on veut aller. Soit on fait des moutons, soit on veut faire des gens autonomes, soit on veut créer une dynamique pour aller dans une direction. Je donne aussi l'exemple du Chateauco. Est-ce que vous connaissez le Chateauco? Le Chateauco est un jeu coopératif où l'objectif n'est pas d'aller contre quelqu'un, mais c'est un objectif de groupe. On met les gens en cercle, ils ont tous une corde. Au bout de cette corde, il y a un crochet, et le but, ça va être de prendre une pièce avec ce crochet et de le mettre, de faire plusieurs, pour faire une tour de 6 à 7 crochets. Et en fait, c'est uniquement de l'écoute, parce qu'on peut parler, mais c'est là aussi on voit une dynamique de groupe, et c'est que de l'écoute, parce qu'il n'y a pas de meneur, on peut pas, on a un seul fil, et les autres ont un seul fil. Si on tire, et puis que l'autre tire en face, bah, ça va pas le faire, et c'est vraiment que de la coopération. Et c'est l'exemple que je donne aussi souvent, c'est que le Chateauco est un objectif commun où on amène le groupe à cet objectif, et que l'éducation, c'est aussi ça. C'est on écoute chacun et on prend le groupe et on va dans un endroit commun de ce que veut l'éducateur social. Je continue, moi je peux parler 2 heures.
Ça me fait rebondir sur aussi le fait qu'on apprend enfant, mais même à l'âge adulte, par imitation. Et du coup, en ayant toi, ou en ayant nous, une posture qui correspond à nos valeurs, on diffuse aussi nos valeurs, malgré nous. Et je trouve ça assez chouette.
Voilà. Il y en a qui ont des enfants ici ? Un exemple que je donne aussi beaucoup et que je vois beaucoup quand j'ai des enfants, je leur demande « Mais ton papa, il fait la vaisselle ?» Et suivant comment il me répond, je vais pouvoir me dire « Ok, là, je vais travailler là-dessus. » Parce qu'il n'a pas de modèle. Si un enfant voit son père qui, souvent, fait le ménage à l'aspirateur, souvent, pas quelquefois, parce que moi, ils me disent, ouais, mon père, il fait à manger, ouais, il fait des pâtes. Peut-être un peu on va travailler là-dessus. Et puis justement, c'est l'environnement familial, ce que tu dis, l'exemple. L'exemple, l'environnement familial est un exemple. Nous, on va être un exemple et on va devoir travailler pour ne pas nuire à cet exemple aussi. Point important, tous les acteurs, c'est ce qu'on appelle la communication circulante. C'est-à-dire tous les acteurs doivent avoir une information et ça doit circuler. Ah, je vois que moi, avec votre enfant, il se comporte comme ça avec moi. Est-ce que vous voulez de l'aide? Parce que je sais que vous avez dit que c'était difficile. Mais on a un dialogue avec les parents. On n'accable pas les parents. Éducateur social, c'est aussi aider les parents, aider les institutions. Par exemple, un prof qui... On entend un prof qui dit « j'ai des problèmes avec cet enfant ». Alors, ce n'est pas des problèmes, c'est un manque de communication. Souvent, on dit aussi « c'est un enfant difficile, c'est un enfant à problème ». Là, je mélange tout parce que j'ai plein de petites connexions qui se font. L'enfant n'est pas un problème. C'est nous qui avons un problème pour communiquer avec l'enfant. Donc c'est nous le problème. Il n'y a pas de sens exact. C'est à nous de faire attention et de se dire, ok, cet enfant-là, je n'arrive pas à communiquer avec lui. Ou alors il communique d'une façon qui ne me plaît pas. Par exemple, un enfant qui va taper souvent, c'est un enfant qui, c'est son mode de communication. Donc nous, on va devoir réfléchir à ça. C'est-à-dire, ok, comment je vais rentrer en communication avec lui pour lui faire comprendre que taper n'est pas la bonne méthode pour communiquer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi avancer sans dire « l'enfant est un problème, c'est un biais ». Donc nous, on va le voir comme un échec, ou on va le voir comme étant quelque chose de problématique, alors que non. Et après, on va aussi devoir regarder « ok, qu'est-ce qu'il y a dans la famille ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose aussi dans l'histoire de la famille ?» Que ce soit la migration, la séparation, il y a plein de choses, il y a un frère et sœur, ou même un décès d'un frère et sœur, il y a 10 millions de raisons qu'on ne sait pas, donc on ne va pas faire de suppositions, on va chercher, et on travaille avec ce qu'on a. Un enfant violent, ok, je n'arrive pas à communiquer avec lui, je vais devoir apprendre. Je ne vais pas crier, mais je vais poser des questions. Souvent, enfin, de mon expérience, l'enfant il me dit, oui mais j'arrive pas. Comment ça t'arrives pas? Oui bah c'est comme ça. D'accord, on se pose 5 minutes. Donc là, on dit, il est puni. Non. On se pose 5 minutes, on réfléchit, on se calme, et après, on essaie de discuter. Parce que ça n'a rien de sur le moment. Là. C'est que du concret. Hein. Mais ça rejoint effectivement toutes les théories anarchistes qui partent du principe que c'est le dialogue, la compréhension, que ça va être le respect mutuel. Et un enfant, bah, ça se respecte comme un individu, et pas comme un enfant. C'est un individu en construction. Donc nous, on va devoir nous adapter et le guider, ou en tout cas, le suivre dans le chemin qu'il a choisi. Il y a plusieurs façons de voir l'éducation. L'éducation, c'est pas « je te mets une laisse, tu me suis ». Ça peut des fois être « je suis à côté de toi, tu sais pas vraiment où on va, mais je suis à côté de toi et on suit un chemin ». Ou ça peut être « écoute, choisis ton chemin et moi je te suis, et puis si tu te retournes, tu sais que je suis là ». Et tu peux me poser des questions, je te dis, ah ouais, c'est par la droite ou par la gauche. Vous voyez les images, il n'y a pas de juste ou de faux, mais ça doit s'adapter à chaque enfant. Il y a des enfants, ça ne sera pas possible de lui dire, vas-y. Et il y a des enfants, au contraire, si on lui dit, reste, ça ne va pas. Voilà, si je prends les théories, là, il y a beaucoup de concepts que vous-même, avec vos lectures, vous avez très probablement fait le lien entre ce que vous avez lu des théories anarchistes et de ce qu'on a mis en pratique directement.
Et du coup, comme moi j'ai des enfants, là j'ai des jumeaux qui vont 7 ans et demi, jumeaux jumelles. Je trouve que c'est chaud dans le quotidien de pouvoir mener, parce qu'évidemment il y a toutes les injonctions de société, il y a aussi les horaires, le coucher, il y a plein de trucs comme ça à respecter qui sont assez rythmés. Et moi, je rencontre pas mal de difficultés parce qu'on est, voilà, on est les parents séparés. Et je les ai une semaine sur deux. Et je trouve que j'ai trouvé un certain équilibre entre poser moi un cadre qui est quand même assez rigoureux pour les encadrer, etc. Mais de laisser la place à ce qu'eux puissent s'exprimer, qu'ils puissent dire ok, qu'est-ce qu'on... Enfin, vraiment de leur laisser une sphère, et je trouve que c'est quand même assez sportif. Et je vois bien aussi à certains moments s'il y a plus d'influence de voilà ils apprennent plein de trucs
de la société à travers leurs relations avec les gens de leur âge, avec les profs, avec et je trouve que bah voilà, des fois ça part dans une autre direction. Et moi j'ai vraiment des fois des frictions, des fois des moments où je sens qu'il y a de la tension qui vient de l'extérieur, il y a plein de trucs qui se mélangent. Et je rejoins assez même enfin l'idée des apatistes là de que finalement il y ait une maturité quand même qui soit déterminée à partir d'un certain âge ou à partir d'un certain moment. Parce qu'en fait pour moi c'est hyper difficile de leur laisser libre choix, d'être derrière eux avec toutes les choses que j'ai moi à faire, à mettre en place. Et je pense que voilà, j'ai essayé de mettre un peu de l'eau dans mon vin pour que ce soit en même temps viable pour moi, en même temps viable pour eux, et qu'on puisse aller un peu dans une direction et que je puisse leur donner des valeurs, des trucs, etc. avec des frustrations de mon côté, du leur, etc. Donc c'est vraiment un truc assez vivant que j'observe, en tout cas ce qui se passe chez moi. Mais il y a effectivement des moments où il y a la voix qui, où j'élève la voix, et moi je trouve que c'est chaud. Je trouve que c'est chaud, là en n'étant pas professionnel d'accompagnant pour les enfants, mais étant parent, donc dans le quotidien de ça, je trouve que des fois c'est bien.
Et les parents que tu as, enfin quelqu'un, je peux juste réagir à... Non, pardon, vas-y.
Bah, moi j'allais juste dire c'est normal, puis enfin c'est enfin, à mon avis... Enfin, les enfants, ils doivent aussi apprendre à vivre en société, et tu fais partie de la société, donc vous êtes une société. Et du coup, ben, dans toutes les sociétés, il y a des... Enfin, faut que ça fonctionne. Et si toi, t'en peux plus, t'as le droit de plus en pouvoir. Enfin, et c'est pas fou. Ils peuvent pas non plus tout décider. Enfin, tu vois, c'est normal qu'il y ait un cadre, parce que vous vivez ensemble.
Ouais, c'est ça. Après, le cadre, moi, je le trouve très vertical.
Ouais.
Parce qu'il y a des horaires, parce que c'est moi qui fais la nourriture, parce que c'est moi qui fais la vaisselle, qui change leurs habits, enfin, qui lave leurs habits, etc. Et clairement, je pense que pour que je puisse fonctionner dans mon système, bah, j'ai besoin qu'il y ait des directives aussi qui soient posées et qu'eux, ils puissent rentrer dans ce cadre-là. Ils doivent pas mal suivre à certains moments. Même là, j'ai une activité où je veux faire du jardin, bah, si je veux pouvoir aller au jardin, de temps en temps, bah, souvent ils doivent venir avec moi. Et s'ils n'ont pas envie, qu'est-ce qu'on fait? Bah, vu que je suis tout seul avec eux, bah, on discute. Et puis bah, la plupart du temps, on y va quand même. Mais c'est aussi... Et moi, je vois, ce qui est difficile pour moi, c'est aussi de les amener vers ce genre des valeurs du coup d'anarchisme, ou d'éco-anarchisme plutôt. Avec tout ce qu'il y a comme appât en face. Ah, mais pourquoi pas avoir ça, pourquoi qu'ils nous achètent pas ci, pourquoi ça. Et voilà, c'est, je pense qu'il y a tout un contexte favorable ou un contexte moins favorable d'être tout seul devant l'immensité du monde. Bah, comme la plupart des parents, je pense qu'ils finissent par céder, puis acheter un smartphone, et puis c'est réglé. Mais de tenir un peu bon, c'est aussi là où je dois mettre le cadre. Quoi. Dire, bah, en fait, moi je veux que vous soyez exposés à la question de la subsistance alimentaire. Donc vous allez venir avec moi au jardin, et puis si vous voulez, vous prenez des crayons, des sticks, enfin, vous allez dessiner, vous faites autre chose sur place, mais vous venez avec moi. Et après, voilà, c'est une danse un peu permanente.
Est-ce que je peux te donner un scénario?
Vas-y.
Les enfants aujourd'hui, papa, ou je sais pas si t'appelles papa ou si t'appelles par ton prénom, ou simplement aujourd'hui j'avais envie d'aller au jardin, mais j'entends que vous n'avez pas trop envie d'aller au jardin. J'entends est important. J'ai pas envie d'aller au jardin. Ton style est très dirigiste, mais tu peux le rendre rigide avec eux, sans être dirigiste. Moi, j'ai envie d'aller au jardin. Je sais que des fois, vous n'avez pas envie d'aller au jardin. On fait un programme. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je veux jouer à la console. Ok, une heure. Une heure. T'es d'accord avec une heure? Comme ça, t'as la console. Et pendant une heure et demie, deux heures, on va au jardin. D'accord? Ok. Pouf. À telle heure, on est au jardin. Après, à telle heure, il y a la console. Après, à telle heure, il va y avoir jouer avec les amis s'il y a des amis. Bricolage, il faut faire des bricolages. Ou je suis intéressé par les avions, on regarde des images d'avions. Ou on lit. Et avec eux, tu fais un programme. Mais tu peux être. Du moment que c'est... Oui, mais pourquoi on fait? Bah, on s'organise. Comme ça, tout le monde est content. Moi, je suis au jardin avec vous. vous avez aussi un peu de console. Je donne un scénario où ça peut être aujourd'hui, on colorie le calendrier en vert parce que c'est le jardin avec moi, même si c'est pas toute la journée. Hein.
Ouais.
Et puis, regardez ici, c'est colorié d'une autre couleur parce que ça symbolise ce que vous, vous avez envie de faire. Et vous êtes pris en compte. Et en même temps, on est dans un cadre serré. Et pareil pour le repas, c'est bah, faites le repas avec moi. J'ai envie de passer du temps avec vous. Ben, je peux faire le repas. Vous avez envie de manger quoi aujourd'hui? Quand je suis avec les enfants en maison de quartier, c'est pas du tout la même chose. Les enfants font à manger. Ils arrivent, on a déjà prévu des choses, mais qu'on a fait avec eux une liste. Par exemple, c'est bon, alors aujourd'hui, on va décider ensemble qu'est-ce que vous voulez pour les goûter. Vous notez tout ce que vous avez envie. Après, ils notent tout ce qu'ils ont envie. Puis après, on réfléchit, on se dit, ok, maintenant, on va noter dans tout ce que vous avez envie, tout ce qui est possible d'avoir. Et puis, on note, puis on dit, ah ouais, maintenant, on note tout ce qui est possible d'avoir et qui est sain ou pas sain. Et en même temps, on dit, mais pourquoi ça, c'est sain? Ok, ça, on a le droit une fois, on en choisit un tous ensemble. Ça fait une activité, on participe à l'éducation, et en même temps, ils se prennent en charge.
C'est clair.
Parce qu'eux-mêmes, ils le font. Et quand il y a le pop-corn, parce qu'aujourd'hui c'est pop-corn, ok, aujourd'hui c'est vous qui avez choisi le pop-corn, vous allez le faire, et on fait un pop-corn sucré et salé parce qu'on doit respecter tout, on est d'accord là-dessus. Hein. Ouais. Ok, vous choisissez lequel vous voulez, ben, ils ont fait, ils ont choisi. Et ils sont acteurs. Il ne faut pas penser non plus qu'on doit faire pour eux, mais. Et quand c'était poulet curry aujourd'hui, on a fait poulet curry, puis tout d'un coup on dit ouais, mais on a pensé, vous avez pensé, on fait quoi là pour ceux qui ne mangent pas de curry? Qui ne mangent pas de poulet. On a pensé à quelque chose pour eux? Oh, non, on n'a pas pensé. Et ils réfléchissent eux-mêmes. Ben voilà. Ils ont un substitut végétarien. Ils ont réfléchi au tofu, ils ont réfléchi à d'autres choses qui existaient. Puis ils ont fait à manger et ils ont plaisir à manger ce qu'ils ont fait. Mais on est toujours là. Hein. Mais en même temps, on va animer, on va dire, oui, alors là, on fait attention, t'as vu le poulet, là. T'es sûr que tu peux discuter avec le poulet, là, il va cramer, là. On est toujours là, on fait. Mais ils participent. C'est comme les cabanes à oiseaux. Je veux une cabane à oiseaux parce que les oiseaux. Ok, on va la faire. Oh non, ah bah, on va la faire, une cabane à oiseaux. Tu crois que c'est facile d'aller à la Migros et puis on va la faire. Puis après, ils sont hyper fiers. Parce qu'ils découvrent des choses, puis des fois, ils vont carrément ailleurs. Et moi, ça me permet de travailler. Là, en ce moment, sur la cabane à oiseaux, je suis en train de travailler avec certains enfants la chance sociale d'avoir de l'argent. Parce que, comme par hasard, il y a des gens qui sont revenus de chez eux. Avec la mousse pour simuler de la neige, avec des petits sapins de Noël en bois, et les autres n'avaient pas ça. Puis je leur ai dit, mais c'est parce que c'est plus cher que c'est plus joli. Ah, et on ne peut pas le faire nous-mêmes, le sapin? Regardez, si on prend les pinces à linge et qu'on regarde, on va regarder ensemble sur Internet, bonhomme, pince à linge. Et on trouve des bricolages pour faire des bonhommes en pince à linge. Pourquoi t'allais l'acheter? Eh, hey, tu peux le faire. Est-ce que ce ne serait pas mieux de te dire que tu as appris à le faire que... Et on travaille aussi justement sur la chance à la naissance, d'être dans le bon groupe de population. Mais je ne vais pas le dire comme ça. Mais eux-mêmes réfléchissent à leurs propres conditions. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, déjà à 5 ans, il sait s'il va avoir de la chance ou pas. À 8 ans, il sait quelles portes lui sont fermées ou pas. Il y a un livre qui s'appelle « Enfance de classe », qui est un pavé, mais qui est monstrueusement bien pour... comprendre qu'un enfant, il sait déjà s'il est chanceux ou pas, s'il est dans le bon groupe de population ou pas, s'il est dans le mauvais groupe étranger ou pas, s'il est natif ou pas, il le sait déjà. Donc nous, on va travailler aussi là-dessus, avec une cabane à oiseaux. Je peux déjà faire plein de choses. Et pour toi, si je reprends en tant que parent, le vin, dis-toi bien que c'est une graine. Elle germe, elle germe pas. Elle germera plus tard. Mais elle est là, et après ils ont, bah, doivent faire avec ce qu'ils ont. Si je donne plusieurs scénarios possibles dans la réflexion, c'est que du cas pratique. J'ai pas trop envie d'aller dans la théorie.
Et ça marche avec les plus vieux aussi j'imagine qu'à partir d'un moment, ça devient plus dur, non? Avec les ados ou...
Avec les ados, ce qu'on met en place, c'est des espaces autogérés. Moi, ce que j'aime faire, c'est leur faire de nouveau la charte, qu'ils construisent eux-mêmes. Après, c'est difficile quand c'est des lieux qui sont très mouvants, instables, où les gens sont pas toujours les mêmes. Mais on peut quand même le faire en disant, ben voilà, c'est les enfants qui ont créé leur charte. Et nous, on vient là pour faire respecter un cadre et leur permettre de faire évoluer leur cadre. Par exemple, on a envie d'une télé.
Ok,
pas de problème. Vous expliquez comment vous voulez faire, vous faites un projet et on verra ensemble après ce qu'on peut faire. Et nous, on a les contacts et autres. Et puis, ben, pourquoi faire la télé? Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? On reste pour planter là? On va jamais dire non. Et après, au bout du moment, il y a la télé, même s'ils ne l'utilisent pas. Parce qu'il y aura d'autres choses qui vont venir après. Mais on ne va pas être dans la morale ou dans la valeur de télé, c'est pas bien. Vous êtes ici, c'est pour aller dehors, c'est pour faire des interactions sociales. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo et je travaille beaucoup avec le jeu vidéo. Le jeu vidéo permet de recréer du lien face à des enfants qui n'arrivent plus à avoir du lien, mais qu'avec une personne, du one-to-one. Le fait d'avoir des jeux, on crée des LAN, on crée de la coopération et petit à petit, on rouvre l'individu au sein d'un groupe. Quand on est en crèche, c'est l'individu au sein d'individus, c'est du one-to-one. Plus tard, à l'école, c'est des tout petits groupes, par trois. Et quand on arrive vers déjà fin de l'école primaire et après vers le cycle, on s'identifie à un groupe. On a les codes vestimentaires qui se lient à un groupe et là, on commence à se créer une personnalité liée à un groupe. Et le jeu vidéo permet de faire ce travail-là. Ça doit être justifié de nouveau à chaque fois. Mais c'est pas dogmatique. Et on a aussi le potager, tout le monde a le potager aussi. Mais les plus grands, ils vont être beaucoup plus acteurs de leur activité. Et on leur dit, on fait un contrat de confiance, c'est à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez plus ou moins là-dedans, du moment que ça respecte un cadre global qu'on a fixé ensemble. Là on peut pas. Pourquoi? Parce que c'est pas à nous. Tu vois, les murs, on peut pas faire vraiment ce qu'on veut. On peut pas décider d'enlever les fenêtres. Pourquoi? Parce que si on enlève les fenêtres, ça va créer plein de problèmes. Et ça prend du temps, mais en même temps, ils comprennent. Et ils comprennent aussi quelles sont leurs limites et quels sont leurs droits dans cet espace-là. Et ça marche aussi. Et après, on a aussi l'autorégulation par les pairs. Par exemple, au lieu de moi de dire « t'as pas le droit de faire ça », c'est peut-être les autres qui vont lui dire « non, mais là, tu nous embêtes ». Mais on leur apprend à s'exprimer avant. Et on crée un espace, on crée des méthodes de communication avec eux. Ça prend beaucoup de temps, c'est jamais du... Il n'y a pas la solution sine qua non, mais c'est le but qu'on essaie d'atteindre à chaque fois. Et ça crée des fois des situations qui sont... Très bien. Ça, en enregistrement, ça va être sympa. Pardon. Mais ça marche aussi avec des adultes. Avec les adultes, on va leur créer un cadre où ils peuvent s'exprimer aussi. Quand j'étais formateur d'adultes, je leur disais « qu'est-ce que vous voulez apprendre ?» Ces fois, c'est je tombais des hauts parce que c'était « je veux... » pouvoir prendre le bus. D'accord. Moi, j'aimerais pouvoir comprendre quand je travaille et on retourne dans le concret et je leur enseigne le français. Mais je ne leur enseigne pas. Je leur dis quelles sont vos problématiques et comment ça va avec les adultes, ça marche aussi. Ils sont acteurs du groupe dans lequel ils sont.
Ouais, de manière générale, c'est toujours la question du sens, du pourquoi on fait les choses. Et est-ce qu'on veut juste cocher des cases ou est-ce que ça a une pertinence, une valeur aussi à nos yeux? Ton intervention, elle me fait penser à... J'ai repioché des vieux trucs, c'est les cahiers du CRELAM. C'était l'Institut de Recherche de Montessori. Ils ont été assez prolifiques dans les années 70, jusqu'aux années 90, puis malheureusement, ils se sont arrêtés. Hein. C'est chou, parce qu'on voit bien que c'est scotché main, il n'y a rien qui est droit, et tout. Et sur un que j'avais lu en diagonale, il était justement... Enfin, un petit peu en avant aussi ce dont toi tu parlais, quoi. Enfin, juste, c'est chaud d'être parent, c'est compliqué. Et avec cette analogie, avec le fait que comme quand on apprend à marcher, on va de déséquilibre en déséquilibre, en fait, être parent, on va de déséquilibre en déséquilibre. Mais voilà, je trouvais joli, je trouvais que c'était une jolie image. Et puis comme ça, je fais un peu de pub pour le CRELAM au passage.
Moi, vos deux interventions, je crois que dans le creux, c'est vraiment cette idée d'être acteur de sa propre éducation, en fait, et où on efface la barrière verticaliste entre l'enseignant et l'enseigné, en quelque sorte. On n'injecte pas un savoir à un individu, qu'il soit d'ailleurs enfant ou adulte, mais il y a quelque chose de l'ordre de forme d'autonomisation dans le processus d'apprentissage. Et c'est là où j'y vois une pensée anti-autoritaire, du coup, parce que justement, il n'y a pas une autorité qui sait mieux que les autres, c'est en réalité la personne qui veut apprendre qui est la mieux à même de savoir comment elle veut apprendre et puis puisqu'elle a envie d'apprendre. Et puis j'ai lu aussi, quand Marie-Lou a proposé cette soirée autour de l'éducation, du coup je suis tombé sur un bouquin qui est édité par les éditions les Ateliers de création libertaire, et qui porte sur la figure du pédagogue libertaire qui était Paul Robin, qui apparemment était hyper novateur, si on peut dire ça comme ça, à la fin du 19e siècle. Il a créé un institut qui s'appelle l'Institut Sans-Puits, et qui était un lieu d'expérimentation d'apprentissage où, Paul Robin était militant anarchiste à l'époque, et il voulait mettre en pratique d'une certaine manière l'idée anti-autoritaire dans une institution. Alors le bouquin est très varié, mais ce sont des chercheurs et chercheuses donc qui écrivent sur lui, puis il parle beaucoup de trois principes sur lesquels repose cette éducation qui s'appelle l'éducation intégrale. C'est marrant parce que ça fait un peu penser au blé intégral, non? C'est un peu ça. Mais du coup, pour Paul Robin, l'éducation repose, contrairement à l'éducation, à l'école républicaine, puisque ça se passe en France, sur l'apprentissage intellectuel. Il y a l'apprentissage également physique, mais ce qui est souvent pas du tout pris en compte dans les institutions scolaires, c'est le développement émotionnel. Et donc il travaille énormément là-dessus dans son école, Sans-Puits, sur la capacité, en fait, enfin l'apprentissage à pouvoir s'exprimer et aussi à recevoir, en fait, l'expression. Donc du coup, ça rejoint un petit peu la psychomotricité aussi. Tu fais appel, en fait, au sens, tant physique, mais également de l'émotion. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que je crois que c'est un constat qu'on peut tous et toutes faire, si on est passé évidemment par des écoles, les institutions scolaires étatiques, pour parler très largement, c'est que c'est quelque chose qui est pas du tout pris en compte. Il y a une volonté de former de futurs salariés, en fait. Il y a la volonté d'injecter un savoir pour ensuite pouvoir, avec ce doux rêve qu'est la méritocratie, de pouvoir s'élever dans la société et puis du coup, gagner sa vie. Et du coup, le bouquin vraiment est hyper intéressant. Alors, j'avais un peu entendu des bribes sur l'éducation, les méthodes alternatives que sont Montessori, Freinet, etc. C'est pas mal de ces choses-là. Qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis perdu. Oui, enfin voilà. Du coup, je retrouve un peu ce que vous dites tous les deux dans cette méthode, qui est plus une méthode, en fait, une pratique de l'éducation qu'un espèce de manuel du bon enseignant, de la bonne enseignante, ou du bon... Et voilà, et dans ce bouquin, ce que je voulais dire, c'est qu'ils font également un lien direct avec l'éducation populaire, qui était un mode d'apprentissage de la classe ouvrière pendant très très longtemps, notamment au sein des bourses du travail en France, et où on appliquait en fait des méthodes similaires. Et du coup, il y avait des ateliers théâtre qui étaient proposés, il y avait un tas de... La classe ouvrière, les ouvriers qui étaient... syndiqués avaient accès à un tas de choses qui leur auraient été refusées par la bourgeoisie parce que sous prétexte que la culture, par exemple, ne leur était pas accessible. Et donc c'est en partant de l'expérience ouvrière que des pièces de théâtre sont faites, qu'il y a eu des livres. Il y a eu aussi toute une période où il y a eu beaucoup d'ouvriers. Je dis ouvriers parce que c'était souvent, beaucoup plus souvent des ouvriers. Non, c'est faux d'ailleurs, il y a beaucoup d'ouvriers aussi dans certains secteurs textiles. Mais il y avait une pratique, par exemple, de l'écriture de la poésie Et ça part à nouveau de l'expérience propre à l'individu qui va pouvoir exprimer ce qu'il vit, quoi. De toute façon, et puis, je crois que quand on s'exprime, c'est très souvent, il y a beaucoup d'affect, en fait, là-dedans. Et cette centralité-là, elle m'a beaucoup frappé. Elle m'a beaucoup frappé aussi parce que c'est aussi un mode de sociabilité très genré. La question des émotions, par exemple. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, voilà, on est dans une société où les mecs vont faire des activités physiques, ne vont pas exprimer leurs émotions, et puis les meufs, pour leur dire rapidement, vont être dans un coin et puis à parler de ce qu'elles ressentent, etc. C'est quelque chose qui est construit aussi. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est ce pédagogue-là, entre autres, et puis il y en a eu d'autres apparemment, ont voulu faire table rase de cette méthode, enfin de l'éducation, de cette forme d'éducation qui était complètement genrée aussi. Et ouais. Voilà, petite remarque en fait.
Moi, je trouve que tu parles de la capacité, de la possibilité de l'individu de se positionner. Et effectivement, on a tendance, dans le système dans lequel on est, à ne pas offrir cette opportunité aux enfants de pouvoir se positionner. Et où du coup, en grandissant dans un certain environnement où la possibilité d'avoir un positionnement qui est mien, par exemple, ne m'est pas offerte, ben, finalement, est-ce que c'est quelque chose ne serait-ce que possible ? Je ne suis pas sûre d'être très claire, mais oui, un enfant à qui on n'offre jamais la possibilité d'avoir un positionnement, de faire des choix, peut tout à fait grandir et se développer, mais sans avoir cette conception que son avis a une valeur, qui mérite d'être prise en compte et qui a le droit d'exister et d'être au monde, tout simplement. Donc effectivement, il y a quelque chose de dangereux. À certains principes d'éducation tels qu'ils sont pratiqués encore chez nous.
Je compléterai que l'école actuelle, l'école publique actuelle, qui permet d'une certaine manière une forme d'asservissement volontaire, parce que puisqu'on n'est pas en capacité à l'école et qu'on est dans cette façon de voir le monde, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'apprend, qui prend les décisions pour moi, et moi j'écoute, et je suis dans une attitude passive, c'est quelque chose ensuite qu'on va reproduire à l'âge adulte, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va décider pour moi des décisions politiques aussi, donc je confie en quelque sorte mon destin politique à quelqu'un qui sait mieux que moi, c'est quelqu'un qui a la capacité à gouverner, c'est quelqu'un qui a la capacité à prendre des décisions politiques. Puis c'est valable dans plein d'autres sphères, je pense, la sphère peut-être même médicale aussi, à entendre certains amis, il y a aussi cette position du patient et du médecin, avec une forme d'autorité qui ne permet pas l'empuissantement, en fait, de la personne. Et qui l'empêche de se dire, mais en fait, je suis capable, moi en tant qu'individu, au sein d'un collectif aussi.
Et
du coup, c'est toute la question aussi de la démocratie. Moi, je pense que l'anarchie porte beaucoup cette idée de démocratie directe, au sens où les gens sont capables de s'assembler, de discuter, de débattre, et puis pouvoir prendre des décisions ensemble sur leur destin. Les exemples que tu prenais tout à l'heure, où tout d'un coup les enfants, justement, sont capables, en fait, à partir du moment, évidemment, où tu leur proposes une activité, tu vas proposer quelque chose, mais c'est bien eux qui vont faire ça. Et moi, je trouve que c'est hyper puissant comme geste dès cet âge-là, parce que ça inscrit quelque chose, je pense, très profond dans l'esprit des jeunes gens. Je suis capable de faire, et surtout, pour le faire, j'ai besoin des autres. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de... Je ne suis pas dans ma bulle individuelle, c'est... on fait les choses, mais on fait les choses ensemble, et en décidant ensemble. Et ça, je trouve, en termes de... Pas même d'imaginaire, c'est hyper fort de pouvoir proposer ce qui est... Ouais.
Moi, ça me fait faire le lien avec tout ce qui est de l'ordre de la sécurité. jeunes, on va avoir tendance à beaucoup protéger actuellement les enfants. Il y a des aires de jeu qui sont toutes bien stériles, toutes bien avec un sol mou, parce qu'il ne faudrait pas qu'il se fasse un bleu. Et du coup, c'est comme si un petit peu, socialement, on renvoyait l'image à l'enfant que... il est fragile, il va se casser, puis qu'il n'est pas capable, et puis qu'il pourrait ne pas arriver du coup de quelque chose du, ouais, d'une impuissance acquise des tout petits. J'avais discuté avec un doyen d'école qui partait en retraite, puis il disait que lui dans sa carrière, il avait tout vu, parce que quand il commençait, les matins d'hiver où il faisait méga froid, les profs rentraient les élèves en classe, puis il y en avait toujours un qui trouvait un prétexte pour sortir, balancer des seaux d'eau dans la cour pour que les mômes aient une patinoire à la récré. Normal. Et il disait, aujourd'hui, tu fais ça, t'es maltraitant. Aujourd'hui, quand ça gèle, on ne sort pas les enfants parce que ça glisse par terre, quoi. Et il y a aussi tout un basculement de l'hypersécurité qui est pas... qui semble pas propice non plus au bon développement, dans le sens de prendre confiance en soi, d'essayer des trucs, de se traler, et c'est pas grave, on recommence, quoi. Il y a une hyper-responsabilisation des adultes qui ont en charge des enfants, aussi comme si eux-mêmes, effectivement, ne pouvaient pas avoir...
Et je rebondis sur cette histoire de responsabilité, ça m'a fait penser à ça. Tu parles des aires de jeu typiquement avec les enfants qui se fassent mal et tout ça, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on cherche qui va être responsable du mal d'autrui. Et du coup, il y a un truc où effectivement c'est hyper sécurisé pour être sûr qu'il n'y ait pas la responsabilité remise sur quelqu'un d'autre, les aires de jeu sur la ville. Les crèches sur les professionnels. Et qui va être responsable du mal que quelqu'un va pouvoir faire. Et ouais, ça pose la question. Du coup, ça me fait bien parce que là, on parle d'enfants qui parlent. Puis, un petit moment, je bosse en crèche. Donc, la grande majorité ne parle pas. Du coup, ça me fait bien encore parce que c'est uniquement comme ça qu'on est capable de mettre en place une activité, un cadre, un environnement. C'est uniquement sur l'observation du tonus, de la motricité, du corps de l'enfant, de son émotion. C'est hyper dur à déceler. Ça, c'est des histoires de relations, sur ce que ça me renvoie, sur ce que je renvoie. Enfin, c'est tout un... Je ne sais plus où je voulais en venir. Ah si, et du coup, je me suis posé la question, là, quand tu parlais sur qui fait les lois, qui décide pour autrui. Et du coup, je me suis fait la réflexion en crèche. Moi, je crée un cadre de règles, un cadre environnemental, un cadre avec des limites, avec toutes ces choses qui sont... nécessaire en fait au développement de l'enfant, parce que sans limite, ne serait-ce physique, arriver à savoir que son corps est son corps et qu'au bout de ses mains, bah, c'est le bout de ses mains et le reste, bah, c'est autre chose, c'est nécessaire. On peut pas se développer sans être enveloppé. Et du coup, je me suis posé la question de est-ce que c'est moi qui suis autoritaire dans ce sein-là, est-ce que c'est moi qui, en décidant des règles, des limites, un cadre pour des tout petits enfants qui me font passer des messages qu'on prend qu'une fois sur 10, comment on peut faire pour qu'ils deviennent acteurs de ce cadre-là? Alors, par l'observation, etc., mais ça reste quand même une forme d'autorité.
C'est d'ailleurs celle qui est utilisée même d'adultes, le système de pouvoir sur les individus adultes, la question sécuritaire, c'est-à-dire, non, en fait, on vous interdit ça parce que c'est pour votre sécurité. Et moi, c'est vrai que ça revient un peu aussi, je ressens par rapport à ma situation avec mes enfants, Bah oui, en fait, je suis un petit autoritaire pour mes enfants et l'objectif, c'est que je puisse les accompagner à ce qu'ils puissent se développer bien dans mon cadre de référence. Mais...
Que tu as décidé.
Bah ouais, qu'on m'a inculqué en partie, que j'ai pu déterminer aussi par rapport à mon individu, à mes croyances, etc. Mais j'ai quand même l'impression que la limite, justement, est très floue. Et qu'en même temps, j'ai l'impression que c'est nécessaire, en suivant des enfants depuis le début de leur vie, bah ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a des trucs qui sont nécessaires. Après, voilà, s'ils veulent monter, grimper à l'arbre, bah voilà, la règle c'était, bah, si t'arrives, tu y vas, quoi. Et puis moi je suis là. Mais de faire le funambule sur un petit muret à 8 mètres de haut, ouais, ok, bah en fait non, quoi. Parce que je n'ai pas envie de t'apprendre un truc qui pourrait potentiellement mettre fin à ta vie. Que l'apprentissage que tu vas faire termine ta vie. Quoi. Mais ouais, je sais pas.
Du coup, on ne prend même pas le risque qu'il y arrive. Enfin, moi, des fois, je me dis ça quand j'interdis à des enfants de faire certains trucs. Ouais. Parce que j'ai pas envie qu'ils s'éclatent la tête et j'ai pas envie que ça finisse à l'hôpital et j'ai pas envie que cette journée elle devienne un truc. Mais ouais. Voilà, j'ai pas envie en fait. Mais potentiellement, s'il marche sur un muret à 8 mètres de haut, ben potentiellement il ne tombe pas en fait.
Ouais, absolument. Et moi je crois que je perds la garde.
C'est là-bas. Ouais, ouais, effectivement.
Et toi ton boulot.
J'aimerais réagir sur ce que vous avez dit tous les deux. L'autorité, ce n'est pas mauvais.
Non, mais c'est pour ça que je faisais la différence avec autoritarisme. Parce que des fois, vraiment, je me pose la question des règles posées.
Tant que c'est
sur des cours,
que c'est expliqué et qu'on peut revenir dessus après en disant voilà pourquoi. Par exemple, il y a des enfants, je leur ai dit tu ne viens pas avec moi, je ne veux pas que tu ailles avec moi, je prends les autres, mais pas toi, parce que je ne peux pas avoir confiance en toi. Parce que si on est sur la route, qu'il y a un chien, je ne peux pas savoir où tu vas. Donc j'ai besoin d'être sûr qu'à des moments, quand je dis stop, tout le monde s'arrête. Quand je dis, mais on comprend pourquoi. Et je fais comprendre aux enfants pourquoi aussi, des fois, il y a des ordres qu'ils ne vont pas comprendre. Ce sont des ordres, mais qu'il y a une raison et après je reviens dessus. L'idée du muret, je donne l'exemple de l'enfant qui fugue. J'ai eu un enfant qui fugue. Je ne l'ai pas couru après. J'ai juste marché, j'ai fait écoute, tu pars. À l'intérieur, j'étais en feu, hein. Écoute, tu pars, ok. Ça veut dire que tu ne te sens pas en sécurité. Mais sache que si tu pars, moi je vais être hyper inquiet. Et c'est la première fois que je testais ça. L'enfant s'est retourné et revenu. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais intérieurement, ok, il veut casser le cadre, il y a une raison. Ça veut dire qu'il n'est pas sécurisé dans ce cadre-là. Ok. Bah oui, moi je dois faire tout un travail pour bien que je flippe. Ok, je laisse. J'ai aussi des personnes, des collègues. Pourquoi tu leur fais pas le poirier? Ils n'ont pas le droit de faire le poirier. Je me dis, pourquoi ils n'ont pas le droit de faire le poirier? Bah parce qu'en fait, c'est sur du béton, s'ils tombent, nous on n'a pas les tapis, on n'est pas agrégé pour faire ça. Qu'est-ce que je m'en fous? Moi, j'étais gamin, je faisais le poirier, je faisais le pont. Là, je laisse faire le poirier, je laisse le faire pont. S'il tombe, il tombe. Mais je vais pas. Mais là, c'est la surinterprétation, parce que dans le règlement, c'est pas écrit qu'ils n'ont pas le droit de faire le poirier. C'est la surinterprétation. Je donne aussi l'exemple de notre projection sur nos inquiétudes. Un enfant va monter 1000 fois à l'arbre. Sur les 1000 fois qu'il est tombé à l'arbre, enfin, qu'il est monté à l'arbre, il va tomber 100 fois. Et sur les 100 fois où il est tombé, il va vraiment se faire mal une fois. Voilà. Donc, il faut laisser. Et dans les jeux hyper sécurisés, moi, quand j'étais dans les jeux sécurisés, j'ai 2 gamins qui se sont pétés les bras. Hein. Monter à l'arbre, ils montent plus souvent à l'arbre qu'ils vont dans les jeux, j'ai eu 0 accident. Donc, des fois, ça ne veut rien dire. C'est, il faut accepter qu'il y a du risque et du danger, que ça fait partie aussi de l'apprentissage des limites.
Mais l'apprentissage moteur aussi, simplement. S'ils n'ont jamais grimpé un arbre, le jour où ils le font, ils tombent et ils se font très mal.
Je donne l'exemple du bois de la bâtie. Vous voyez les artichauts au bois de la bâtie? Il y a des jeux, les jeux, les nouveaux jeux, moi j'appelle ça les artichauts, les gens ils disent des arbres, moi je trouve que c'est des artichauts, et on peut monter dedans, et puis en fait il y a, c'est les, comme les araignées, tu sais, puis après c'est plus haut,
il y a des grosses cordes,
et après il y a des passerelles. Combien de fois j'ai demandé aux enfants d'aller débloquer les autres enfants? Moi je laisse monter. T'es monté, je t'ai aidé la première fois. Il va tester. Mais après, je dis, vous êtes solidaires, les gars. Moi, je peux pas monter avec vous. Il est là tout seul, puis ouais, t'inquiète, Seb, je vais l'aider, j'y vais. Puis ils arrivent tout seuls. Mais c'est aussi un apprentissage. Apprentissage de la solidarité, l'apprentissage d'un dépassement de ses propres limites. Et puis c'est aussi de connaître ses limites, je vais pas plus loin. Combien qui sont restés bloqués avec les deux pieds, qui sont sous le filet, puis qui sont tenus comme ça.
Mais, ça fait pas de bon arbre.
Mais c'est pas grave, ok? Moi je suis là, je fais, bon ben, t'es là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, de m'aider. Attends, si j'envoie Lucas t'aider, ça va le faire? Je sais pas. Fait, ok, je vois le cap. Tout est maîtrisé. Parce que moi je peux monter, parce que tout est, mais je vais pas forcément le faire. Mais je lui crée un cadre où il peut expérimenter, et des fois, parce qu'il expérimente n'est pas forcément évident, mais il a essayé. Et il sait qu'il peut essayer. Je donne aussi l'exemple de la chèvre de Monsieur Seguin.
Je suis désolé, en fait, je vais aller les rechercher juste.
Bah, bah. Bah, bah.
Tout merci beaucoup.
Je dis l'autorité est nécessaire, mais c'est pas forcément. On peut le voir comme bon ou moins bon. Ça dépend qu'est-ce qu'on le fait et pourquoi. Surtout quand tu dis que tu décides pour les enfants, mais t'es pas rigide. Tu décides pour les enfants, mais ça change ton cadre. Il bouge, il évolue. Tant que c'est pas comme ça et qu'après tu dis bah c'est comme ça. Mais pourquoi? Bah parce que c'est comme ça. Donc ça veut dire que tu écoutes l'enfant dans son cadre. Tu dis bah j'ai décidé aujourd'hui que c'était comme ça parce qu'il n'est pas en mesure de décider. Mais qu'après je vais peut-être trouver d'autres choses et tu as le droit de te planter. Donc voilà. Moi je. L'idée d'à tout prix se dire ce qu'on fait, c'est moi qui décide, je veux absolument pas décider, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a des moments c'est.
C'est une nécessité. Les enfants ont besoin d'adultes pour se développer, en fait. C'est la base. Enfin, la base.
Oui. Parce que je signale au début, un bébé, c'est plutôt de l'infirmerie.
Moi, je suis pas d'accord.
Ouais, mais quand c'est les trois premières semaines. Ouais. on peut pas communiquer avec lui les trois premières semaines. C'est que du physique.
Ouais, mais ça regarde, ça touche.
Oui, oui.
Ça pleure.
Oui, surtout, ça dort, ça pleure.
Ça rigole, ça sourit, ça communique, ça naît, ça communique. Ça demande une capacité d'observation extrêmement fine et beaucoup de patience. C'est d'autres moyens de communication, d'autres médias de communication. C'est à travers le jeu, c'est extraordinaire de communiquer avec un enfant de toutes les manières qu'elles soient. Peu importe, il ne parle même pas ta langue et tu arrives à communiquer très correctement avec lui. Tu arrives à comprendre qu'il a faim, qu'il a froid, qu'il a mal au ventre. Il faut avoir établi une relation avec. Au premier abord comme ça, je pense qu'avec un tout petit bébé, effectivement, tu ne peux pas communiquer pour apprendre à se connaître, mais comme avec tout le monde en fait, si on discute pendant des heures, il va falloir qu'on s'ajuste et qu'on comprenne quel mot veut dire quelle chose pour nous. Avec les tout petits, ça va être pareil pour des tout petits enfants, en tout cas qui ne parlent pas, qui n'ont pas le langage. Mais ça communique. Et même entre eux, tout à l'heure tu disais c'était du. Un pour un. Enfin, moi, je suis étonnée des dynamiques de groupe qui vont se créer chez des tout petits, des jeux en commun. Alors qu'on te dit, tu parlais de développement d'enfants et d'un truc hyper carré et en fonction de tel âge, s'il marche toujours pas à quatre pattes, et bah franchement, il faut vraiment, vraiment s'inquiéter. Mais quand tu vois qu'ils arrivent à jouer ensemble, c'est des tout petits moments, c'est des tout petites choses, mais ça commence tout bébé, il commence déjà à avoir des interactions, des relations, des préférences d'enfant à enfant. C'est hyper intéressant.
Ça me permet de rebondir sur ce Julian, voilà, qui lui parlait, il avait théorisé justement le concept de dialogue tonique, où tu disais, voilà, tu portes l'enfant, le bébé, et tu vas avoir l'impression qu'il a mal au ventre, ou comme ça, et ouais, au travers de la relation qui se tisse entre l'adulte et le bébé, effectivement, il y a des médias de communication, mais qui sont... à la fois extrêmement puissant et à la fois extrêmement infra, quoi. Donc,
respiration, quoi.
Ouais. Enfin, ouais.
Le temps d'endormissement des enfants, en fonction de comment ils respirent, enfin, c'est un truc qui demande une attention qu'on n'a plus d'adulte à adulte, qu'on a moins, en tout cas. C'est dommage. C'est dommage parce que si on s'observait plus, en fermant notre bouche, des fois, je pense qu'on en saurait beaucoup plus les uns sur les autres. On peut parler quand même.
pour revenir à cette question des règles et du cadre, mon ami Vincent, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui a envoyé deux, trois petites choses, et je pense que je peux le partager avec vous, si ça vous va. Il y a toujours cette question de la domination. Peut-on mettre un enfant sur un pied d'égalité avec un adulte? Les échanges avec les pédiatres, les psys, les parents le disent tous. Les règles, elles sont importantes pour les enfants. Ça leur permet de mettre un cadre sécurisant, des repères. L'absence est plus une angoisse qu'une limite, finalement. Mais les règles ne sont pas forcément une domination, même si elles sont imposées d'une certaine manière. Monsieur qui s'appelle Norman
Baillargeon.
Merci. Non, mais ce soir, les noms, c'est... Merci, alors. Fournit une porte de sortie en faisant une distinction. L'anarchiste accepte la domination légitime. Et on a le sentiment que la maxime qui veut qu'il faut d'abord apprendre les règles avant d'avoir le droit de les enfreindre semble assez juste, car elle permet de savoir quand il est nécessaire de les respecter. Et pourquoi, et quand il est possible, voire nécessaire, de les enfreindre. Voilà. Et le piège, ce serait de tomber dans l'enfant est ci, l'enfant est ça. Donc, ouais, tout ça prend par imitation, donc de montrer une forme de solidarité entre adultes, c'est aussi montrer un exemple porteur aux enfants.
Ce que dit Vincent là, c'est ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure autour de, alors l'autorité, moi j'aime pas, c'est peut-être pas le terme que j'aurais utilisé, j'aurais plutôt utilisé le terme de cadre ou d'ordre à la limite, qui est en fait quelque chose qui est co-construit d'une certaine manière, et c'est parce qu'il est l'individu, à nouveau enfant, adulte, participe en fait à la construction de ce cadre, de règles, parce qu'on a besoin d'institutions en fait dans la société. Je crois pouvoir dire que les anarchistes sont pas, contrairement à ce qu'on peut penser, sont pour un ordre. Alors, comme le dit l'autre, un ordre sans moins le pouvoir, mais il y a un ordre. Et cet ordre, il doit être consenti et décidé par tout le monde. Et on en revient toujours à la question de la décision, enfin du pouvoir de décision qu'a l'individu et le collectif pour décider de ce cadre, en fait, et de ces règles-là. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est par rapport à au fait d'expliquer, en fait, certaines choses à l'enfant, tu vois, au jeune ou à l'adolescent. Tu vas lui expliquer pourquoi il y a cette règle-là. Alors, effectivement, il n'a peut-être pas participé en amont à ce cadre, bien qu'il peut y participer par le biais de cette fameuse charte dont tu parlais tout à l'heure, qui est déjà un cadre en soi, en fait. Mais le fait d'expliquer ça... Par la raison, en fait. Et je pense que il y a ce préjugé, cet a priori qui nous est inculqué beaucoup par, à nouveau, par la société dans laquelle on vit, comme quoi il y a des individus qui sont capables de comprendre et d'autres pas. Donc l'enfant ou l'adolescent ne serait pas capable de comprendre une règle. Donc on va lui dire, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que. Alors qu'en réalité, il y a une, il y a quelque chose de, je l'ai dit tout à l'heure, et je serais très curieux de lire ce bouquin. Tu disais tout à l'heure, un enfant à 5-8 ans, il comprend déjà à quelle classe sociale, même si ce n'est pas formulé comme ça, mais à quelle classe sociale
oui,
il appartient.
L'enfance de classe.
Voilà, l'enfance de classe. Ce serait cool d'ailleurs que tu, tu files la, la référence tout à l'heure. Parce que vous...
Moi je l'ai, je te le passe.
Ah bah volontiers. Mais voilà, c'est, ça s'inscrit là-dedans, dans cette lecture-là, quoi. Et en fait, c'est faux, c'est un mensonge.
Ce qui est intéressant après avec ceux qui parlent, c'est de, d'essayer de comprendre ce que eux ils en comprennent. Ouais. Là, sur les 3, 4, pourquoi tout. Et en fait, bah, au début, je répondais. Et, bah, pour moi, mon amour. En fait, j'ai arrêté. Maintenant, je demande, mais pourquoi toi? Tu penses que c'est pourquoi? Et en fait, ils donnent des explications des hyper sensées auxquelles même moi, j'avais même pas ce pourquoi-là. Et puis ça, on parle de développement, mais ça vient faire des liens hein, qui sont hyper importants en fait. Je trouve que le lien entre le développement moteur, de respecter tout ce fait qu'un bébé se retourne petit à petit, puis après arrive à pousser sur le bras, puis finalement arrive à se mettre assis, et puis finalement un bébé, si tu le mets assis, il peut potentiellement très rapidement tenir assis. Sauf qu'il n'aurait pas eu tout le cheminement musculaire, physiologique, qui va faire qu'il va tenir assis après. Et j'ai l'impression que pour les questions, pour le langage, on a un grand débat sur le langage des signes en ce moment, hein, sur la petite enfance. Est-ce que c'est cool de d'accélérer le langage par les signes pour les tout-tout-petits? Moi j'ai l'impression que tout ce cheminement, tous ces liens, toutes ces stratégies qui doivent se faire, toute cette individualité qui se crée en fait, cette imagerie qui se crée pour apprendre à dire quelque chose ou pour trouver une réponse à quelque chose, elle est nécessaire, mais que ce soit au niveau physiologique, mais psychologique aussi, ça rejoint la psychomotricité, je pense, quoi.
Avec toute l'idée que tout développement effectué sous contrainte sera toujours moins harmonieux, moins
ouais,
performant, moins
et
personnel.
Et en utilisant des raccourcis aussi.
Voilà.
Il va manquer tout le chemin qui va se faire. Alors, le résultat va être là, hein. Mais tout le chemin. Tu parlais d'Enriquez tout à l'heure, qui disait c'est pas la finalité qui compte, c'est tout le chemin qui mène au projet, quoi. Tant pis si ça marche ou si ça marche pas.
Il y a gentiment être là, Denis.
J'allais faire exactement la même chose. Oui, oui. Concordance d'âme.
Bah merci beaucoup.
Merci à vous.
Ben merci à toi. Merci.
Merci.
Merci. Merci.
Oui.
Merci.
Alors,
à vous.
Bon appétit.
Oui. Oui. Merci. Merci.